Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand nous emmène au cœur de l'Égypte ancienne cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Nous allons en effet évoquer le règne incroyable d'un pharaon qui tout seul a cru pouvoir renverser des siècles, des millénaires de traditions. Pour nous parler d'Akhenaton, j'ai convié le plus moderne et le plus aimable de nos pharaons, Gilbert Sinoué en personne.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Marthe qui souhaiterait connaître les origines de la machine à écrire.
Mais je veux bien répondre à Marthe, mais je ne suis même pas certain que nos plus jeunes auditeurs sachent encore ce qu'était une machine à écrire. Oh, ça ne nous rajeunit pas, que voulez-vous. Broutille que tout cela à l'échelle d'une histoire comme celle de l'Égypte.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Ce qu'il y a de plus célèbre chez Akhenaton, c'est son épouse, Néfertiti, dont les traits admirables ont été immortalisés par un célèbre buste du musée de Berlin. Problème, si l'on en croit Henri Stirling, qui est un historien de l'art, d'Alexandrie, si on en croit, ce buste serait un faux. Il aurait été réalisé non pas au XIVe siècle avant notre ère, mais bien au XXe siècle après, en 1912, figurez-vous, sous la houlette d'un archéologue allemand, Borchardt. L'archéologue voulait faire, semble-t-il, un portrait de la reine, dont on possède une dizaine de portraits par ailleurs, hein, sur divers bas-reliefs, ou haut-reliefs d'ailleurs. Il voulait la représenter portant la célèbre le pchent, vous savez, la couronne des deux royaumes dont on savait qu'elle se paraît. Il voulait par ailleurs, avec des pigments anciens découverts lors de fouilles, faire des essais de polychromie. Il se trouve que lors d'une visite princière, il y a des souverains saxons qui viennent visiter le chantier de fouilles, qui tombent en admiration devant ce buste, le 6 décembre 1912. Ils croient que le buste est authentique, tout le monde applaudit, admire, etc. Et l'archéologue n'aurait pas eu le courage de ridiculiser ses hôtes, selon l'historien. Monsieur Stirling nous dit que le buste n'a pas d'œil gauche et n'a jamais été préparé pour le recevoir. C'est une injure pour un Égyptien ancien, selon qui la statue est la personne elle-même. Les épaules, par ailleurs, sont coupées à la verticale, comme on le fait depuis le milieu du XIXe siècle, alors que les Égyptiens coupaient les épaules à l'horizontale. On a accentué les traits d'une manière qui rappelle le style de l'art nouveau, nous dit l'historien de l'art, selon qui on ne peut dater scientifiquement la pièce parce qu'elle est en pierre recouverte de stuc. Les pigments qui sont datables sont véritablement anciens, ça personne n'en a jamais douté. Nous ne mettons pas dans nos vitrines des œuvres douteuses pour les quelques 700 000 visiteurs que nous recevons chaque année, a réagi le directeur du musée égyptien de Berlin, Dietrich Wildung, qui réfute évidemment totalement les conclusions de Stirling. Alors en attendant de revenir avec Gilbert Sinoué sur cette affaire du buste de Néfertiti, laissez-moi vous présenter son mari, un des personnages les plus fascinants de l'histoire de l'Égypte, qui pourtant n'est pas avare en grande figure, le roi Amenhotep IV, que les Grecs appelaient Amenophis IV, et qui ne va pas tarder à se donner lui-même le nom d'Akhenaton. Akhenaton, l'adorateur d'Aton, ou si l'on veut une traduction très littérale, l'esprit efficace d'Aton. Ce pharaon n'en finit pas d'alimenter le débat. On sait que l'écrivain catholique Daniel Robbs voyait en lui le premier instigateur du monothéisme, même si aujourd'hui ça n'est plus l'avis général des archéologues. Mais c'est la grande question, c'est ce qu'il y a de plus passionnant, bien entendu. Est-ce que cet homme a inventé le monothéisme? Et même, est-ce qu'il est en quelque sorte une sorte de prophète qui aurait été en lien avec la divinité? Vous avouerez que la question est assez extraordinaire. Akhenaton est en tout cas le plus connu des pharaons d'une dynastie phare, la 18e. Alors il faut savoir qu'avant l'installation de cette dynastie, des étrangers, les Hyksos, avaient progressivement infiltré les rouages de l'administration égyptienne pendant plusieurs générations et finalement, ils ont installé leur propre royauté vers 1710 avant Jésus-Christ. C'est ainsi que se crée l'étrange 15e dynastie. Alors, qui sont-ils, ces étrangers venus prendre peu à peu possession du Delta? On les considère généralement comme issus de tribus bédouines originaires d'une région que les Égyptiens appelaient Redjenou, c'est-à-dire en gros la Syrie-Palestine. Ils adorent d'ailleurs un certain nombre de dieux du panthéon égyptien, à commencer par le dieu Seth. Il s'empare de Memphis en 1650, seulement à partir de cette date, donc milieu du XVIIe siècle avant notre ère. Plus au sud, une nouvelle dynastie de pharaons émerge des brumes de l'histoire, la 17e. Alors vous allez dire, entre la 15e et la 17e, où est la 16e? On va pas en parler de la 16e, c'est une petite dynastie qui ne règne que sur une toute petite partie du territoire égyptien. La 17e donc, composée d'Égyptiens, du cru, va entrer en lutte contre les Hyksos. Le nouveau centre de cette royauté n'est encore qu'une petite cité, mais alors appelée à un destin extraordinaire, la cité de Thèbes. Trois souverains sont associés à cette lutte contre le Nord. Sekenenre, qui engage le combat au sens militaire du terme contre le souverain Hyksos. Son successeur, Kamosé, qui est le dernier souverain de la 17e dynastie. Il poursuit la lutte entamée par Sekenenre et il réussit à approcher de la capitale des Hyksos, mais sans s'en emparer. Et c'est son frère, Amosis, qui va inaugurer la 18e dynastie. Dès la 11e année de son règne, il reprend le combat contre les Hyksos. L'un de ses premiers gestes, c'est de restaurer le temple de Memphis. Il va remettre de l'ordre dans l'administration. On va dire tout simplement qu'il est en train de restaurer la royauté sur l'ensemble des frontières du double pays. Il crée les bases d'un nouvel empire. Et alors là, c'est toute la succession des grands souverains de la 18e dynastie, les plus connus peut-être, avec les Ramessides. Bien sûr, Thoutmosis Ier, roi conquérant, Thoutmosis II, qui est un roi un peu phallo, mais dont l'épouse Hatshepsut va devenir la seule femme pharaon à part entière de toute l'histoire d'Égypte, un personnage extraordinaire. Elle va pendant très longtemps empêcher son neveu de devenir le pharaon, mais quand Thoutmosis III, prend le pouvoir, c'est pour de bon. On le surnomme le pharaon de l'Égypte, le Napoléon de l'Égypte. C'est lui qui remporte la victoire de Kadesh en l'an 42 de son règne. Il meurt 11 ans plus tard. Lui succèdent trois pharaons, dont le troisième, Amenhotep III, est considéré comme celui qui aura le règne le plus florissant peut-être de la dynastie, c'est sûr, mais peut-être même de toute l'histoire d'Égypte. Ce long règne de 38 années va marquer l'apogée en quelque sorte de cette civilisation pharaonique extraordinaire. C'est avec sa femme, l'une de ses épouses, la reine Tiy, Amenhotep III a donc un fils, Amenhotep IV, c'est lui qui nous intéresse. Vous voyez, j'ai fait tout ce long développement pour vous expliquer qui est celui qui bientôt se fera appeler Toutankhamon et qui va tout faire sauter en faisant lever un nouveau soleil.
Un extrait de l'opéra Roméo et Juliette de Gounod, Roberto Alagna sur Europe 1 avec « Ah, lève-toi soleil ». Nous serons de retour dans un instant au cœur de l'Égypte antique avec vous Franck Ferrand pour continuer d'évoquer Amenhotep IV, futur roi Akhenaton.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le célèbre pharaon de la 18e dynastie, Akhenaton, est au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, sur le début du règne de celui qui s'appelle encore Amenhotep IV.
C'est quand même une histoire qui est vieille de 34 siècles. Vous imaginez ça? Quand même fascinant. Vous comprenez qu'on ne puisse pas avoir toujours de précisions très grandes sur les dates, par exemple. On pense notamment que c'est lors de la 4e ou de la 5e année du règne d'Amenhotep IV que commence à se manifester un certain nombre de changements en profondeur dans la société, à la cour, dans l'administration même de l'Empire. Le pharaon semble s'adonner entièrement au culte d'Amon, dans un premier temps, le protecteur de la dynastie, et le roi va substituer à ce culte celui d'Aton, cette divinité du disque solaire, manifestement, très visible, hein, bien entendu, puisque c'est de lui que tout procède. Amon, c'est le dieu caché. Aton, c'est le dieu solaire. La rupture va être grande avec la tradition religieuse, va être grande avec le clergé d'Amon, qui à l'époque est d'une très grande puissance. Nous y reviendrons tout à l'heure, évidemment, avec Gilbert Sinoué, parce que c'est au cœur même de toute cette affaire. C'est le moment où l'on va installer une nouvelle capitale qui va devenir la capitale d'Aton, Akhetaton. On tire un trait sur Thèbes, sur Karnak, sur le gigantesque temple dédié au dieu caché. Le pharaon préfère donc fonder cette nouvelle cité sur le site actuel d'Amarna. L'Amarna, c'est pour ça qu'on parle de la révolution amarnienne. C'est pour visiter aujourd'hui les restes, les vestiges de cette extraordinaire cité sortie de rien, il faut se rendre à Tel El Amarna. Alors Philippe Bayet nous explique qu'Aton n'était quand même pas un dieu inédit dans la religion égyptienne. Dès le règne de Thoutmôsis Ier, par exemple, on observe tout un culte à Aton qui est compris comme une énergie cosmique subtile, une puissance créatrice qui ne se réduit pas à la forme extérieure du soleil, bien que ce disque solaire tel qu'il se montre au moment du couchant, vous savez, c'est magnifique dans ces pays d'Orient, hein, ce grand soleil rouge, presque rose qui descend comme ça à l'horizon, même s'il est, on a l'impression de pouvoir le toucher. Néanmoins, bien entendu, dans toute sa gloire, dans toute sa pureté, il est la manifestation d'un dieu qui remplace d'une certaine manière tous les autres. Et c'est là que se pose la question du rôle personnel joué par Akhenaton dans cette affaire. Nous sommes en présence d'un pharaon mystique qui se présente comme le fils de l'éternité sorti du soleil et qui se dit en relation personnelle, en relation directe avec le nouveau dieu. Comme l'écrit François Domas, je le cite, « Le dieu était juridiquement et métaphysiquement l'héritier et le lieutenant du créateur unique. Il est même le seul à pouvoir adorer vraiment son dieu, car celui-ci l'a informé lui seul de ses desseins et de sa puissance, sans doute lors de l'expérience initiale qui a fixé le sort du règne. » Il y a donc bien dans cette affaire, si l'on en croit en tout cas un certain nombre des exégètes des textes antiques, il y a bien ce qu'il faut appeler une révélation, avec la prise de conscience par ce pharaon de la primauté d'un dieu qui vient littéralement balayer le traditionnel panthéon égyptien. Il y a une prière d'Akhenaton au dieu Aton que nous avons conservé hein, grâce à tous ces bas-reliefs, à tous ces hiéroglyphes sur le site de Tel El Amarna, qui nous dit « Tu es dans mon cœur et nul autre ne te connaît sinon ton fils Akhenaton. Dans tes desseins, tu lui as donné la sagesse et par ta puissance, les êtres sont dans ta main. » Vous vous rendez compte quand même, ça fait beaucoup penser à d'autres textes infiniment plus récents, à des textes de religion monothéiste, bien sûr. « C'est par toi aussi, poursuit la prière d'Akhenaton, que la beauté se contemple jusqu'à ce que tu disparaisses à l'Occident et tout ce qui est sur la terre. C'est toi qui l'as fait lever pour ton enfant, celui qui est né de tes membres, le roi vivant dans la vérité. » Vous comprenez pourquoi un certain nombre de penseurs, et notamment, c'est vrai, des exégètes chrétiens de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, ont voulu voir dans des textes comme celui-là une forme d'avènement, d'un monothéisme qui nous surprend, bien entendu, 34 siècles en arrière. Vous imaginez ça? Alors, on imagine combien les décisions d'Akhenaton ont bouleversé la société égyptienne, sa religion. A-t-on est un dieu pour lequel on ne dresse pas de statue. Le symbole qu'il représente est formé de longs rayons lumineux qui se terminent par des mains. Et surtout, vous l'aurez compris, le seul qui serve d'intermédiaire avec les bienfaits d'un tel dieu, le seul qui puisse être le réceptacle des prières, en quelque sorte, c'est Akhenaton lui-même, qui introduit donc une révolution très grande dans les esprits, mais aussi dans les formes habituelles de la pratique religieuse, puisque, ce faisant, il met de côté les clergés traditionnels attachés dans l'Égypte antique à tous les dieux du Panthéon, et notamment le plus puissant de ces clergés, celui qui était considéré comme la concentration des richesses, de la puissance, du pouvoir même de l'Égypte, le clergé d'Amon, qui n'a, vous pouvez l'imaginer, sûrement pas dit son dernier mot.
Le pharaon Akhenaton est au cœur de l'histoire et à tout moment, vous pouvez réagir à cette émission. Posez vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH sur la page Facebook de l'émission ou par mail europe1.fr. Nous vous retrouvons dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le règne d'Akhenaton.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le pharaon hérétique selon le clergé d'Amon Akhenaton est au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous Franck Ferrand sur cette révolution de la pratique religieuse instaurée par Akhenaton.
Et oui, et il y a une autre révolution très, très importante et qui évidemment nous touche nous peut-être davantage encore, c'est la révolution artistique qui accompagne tous ces grands changements. Parce que dans le domaine artistique, on rompt brutalement en quelques mois avec cette tradition de l'art hiératique immuable. Vous savez, vous connaissez à quoi ressemblent les Égyptiens sur les parois des temples, hein, bien entendu. Et d'un seul coup, avec Akhenaton, on voit l'être humain représenté avec beaucoup plus de naturel, de réalisme. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que Pharaon, son épouse, ses filles sont représentées dans des scènes quotidiennes. C'est la toute première fois. Alors évidemment, sur les parois des temples, etc., on avait déjà depuis 5 ou 6 dynasties, on avait l'habitude de représenter des scènes de la vie quotidienne. Mais c'était des scènes pratiques, si je puis dire. D'un seul coup, on met de l'intensité, on met de l'émotion dans les scènes. Ça paraît incroyable. Et puis alors, les corps et les visages sont littéralement déformés. Vous voyez à quoi ressemble Akhenaton, avec ses grosses lèvres, avec son menton affligé d'un prognathisme évident, avec ce crâne complètement dolicocéphale, qui a fait dire à un certain nombre de spécialistes, et notamment un certain nombre de scientifiques américains, qu'il était affecté de tel et tel et tel syndrome. On a voulu affubler le pauvre Akhenaton de toutes les maladies de la Terre pour essayer d'expliquer notamment les seins qu'il a, car il a des véritablement comme une femme, ou ses hanches qui sont des hanches féminines. Il me semble qu'on se trompe complètement de piste, entre nous soit dit, et que ça n'est sûrement pas dans la physiologie et dans l'état de santé d'Akhenaton qu'il faut aller chercher les origines de ces transformations morphologiques. Il faut aller les chercher dans une volonté artistique de peindre Pharaon sous les traits d'un homme-femme. Il y a bien une dimension androgyne dans la manière qu'il a d'exercer le pouvoir, et ça va se manifester de plus en plus à mesure qu'on avance dans le règne. Il y a du reste une séparation, une rupture nette avec Néfertiti. Alors là encore, les historiens se sont posés beaucoup de questions. D'où vient cette rupture? Est-ce que on ne sait pas, hein, mais certains disent que Néfertiti aurait pris conscience de tous les dangers que la révolution amarnienne faisait peser sur la société égyptienne, qu'elle se serait donc en quelque sorte d'elle-même retirée du projet. Elle serait partie. Ou bien au contraire, qu'Akhenaton aurait finalement décidé, lui, de pactiser avec un certain nombre des puissances d'Amon, les puissances classiques de l'Égypte, et que la reine Néfertiti, se crispant au contraire sur la révolution, se serait d'elle-même isolée de celui qui se faisait appeler le dieu créateur. Ce sont des possibilités. Akhenaton, en tout cas, donne l'ordre de détruire les statues d'Amon. Il fait détruire les stèles qui portent le nom du dieu rival, le signe hiéroglyphique qui sert à écrire le terme « les dieux » au pluriel. Ce hiéroglyphe est littéralement supprimé de l'alphabet égyptien. Vous comprenez pourquoi certains ont parlé à partir de là d'un monothéisme atonien. Par ailleurs, après la séparation avec Néfertiti, Akhenaton va pratiquer le rite de la co-régence avec un jeune homme qui s'appelle Semen Kare et qui va devenir une sorte de double du pharaon, au point même qu'on a pu penser qu'il y avait une relation homosexuelle, une relation de passion très forte entre le pharaon Akhenaton et ce Semen Kare, qui sera d'ailleurs inhumé dans la même tombe que le pharaon. Et alors il y a des formulations très étonnantes, puisque en quelque sorte sur certains textes Akhenaton est présenté comme la femme de Semen Kare, alors qu'il est lui-même, vous l'aurez compris, non seulement un homme, mais il est le père d'une descendance. Tout ça est assez étonnant, bien entendu. Il n'y a rien de plus fascinant dans l'histoire de l'Égypte, vous l'imaginez. Ce roi féminin qui serait en quelque sorte le pendant de la reine masculine qui était Hatshepsut quelques générations plus tôt. C'est assez étonnant. Alors, de quoi est mort Akhenaton? Pourquoi a-t-il disparu si vite et si jeune, à l'âge de 30 ans? On sait que par ailleurs, la ville qu'il avait fait sortir de terre va être littéralement ravagée, rayée de la carte. Il faut vous dire que cette ville, elle avait été bâtie extrêmement vite, d'un seul jet, et en employant des matériaux infiniment moins solides que ceux auxquels on avait été accoutumés en Égypte, puisqu'il ne s'agit pas de ces gros blocs de pierre habituels, il s'agit de, essentiellement de parements de briques. Alors certes, le temple était tout à fait extraordinaire, hein, avec une nef de 800 mètres de long. Vous imaginez, c'était quelque chose de grandiose. On avait des fresques éblouissantes qui ont été perdues, bien entendu, non seulement au moment de la destruction de la ville elle-même, mais ensuite dans l'abandon et dans la déréliction où l'ont laissé les siècles. Que reste-t-il, somme toute, de cette révolution du pharaon dieu Akhenaton ? Il reste des textes, il reste une sorte de primauté monothéiste, pardon d'y revenir, mais j'ai bien l'intention de poser la question dans un instant à Gilbert Sinoué. Il reste certains poèmes assez extraordinaires et qui nous émeuvent encore. Le beau prince, l'élu du soleil, roi de haute et de basse Égypte, vivant dans l'harmonie universelle, seigneur du double pays, bel enfant du vivant Aton, dont le nom demeurera à jamais. Bonjour Gilbert Sinoué, j'espère
Bonjour,
que vous ne m'en voulez pas de vous avoir tout à l'heure appelé pharaon.
Non, non.
C'était la marque
C'est
pour
beaucoup
moi
d'honneur.
D'un très grand respect, vous l'imaginez bien. J'ai beaucoup de questions à vous poser, ça tombe bien.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
De la bande originale du film d'animation Le Prince d'Égypte, une musique signée Hans Zimmer. Sur Europe 1, le pharaon Akhenaton est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'écrivain Gilbert Sinoué, auteur de Akhenaton, le dieu maudit, aux collections Folio Gallimard.
Et oui, c'est bien sûr qu'il était dieu par sa fonction de pharaon, mais il était aussi peut-être dieu par la dimension prophétique qui s'attache à son destin. C'est quand même assez extraordinaire, ça, Gilbert Sinoué. Est-ce que, d'une certaine manière, Akhenaton pourrait être considéré comme un des premiers prophètes ? C'est une question qui se pose.
À mon humble avis, c'est une évidence. Qu'il ait inventé ou créé le monothéisme dans le sens contemporain du terme...
Aujourd'hui, les égyptologues refusent cette idée.
On va très loin. Mais qu'il ait donné la primauté à un des dieux égyptiens, c'est une évidence. Et là, cette primauté affleure le monothéisme, effectivement. Il faut savoir aussi que c'est un homme qui était d'une telle humanité et d'un tel humanisme qu'à l'encontre de ce qu'on peut imaginer, il n'a jamais voulu imposer de force son dieu, Aton. La preuve étant, c'est qu'il quitte Thèbes. S'il voulait imposer le monothéisme dans le sens absolu, il aurait guerroyé.
C'est quand même un pharaon qui quitte sa capitale pour aller en créer une autre, pour aller tout seul adorer un seul dieu. C'est l'histoire la plus extraordinaire de l'Égypte, ça, quand même.
Donc, pardonnez-moi l'expression, il leur fout la paix.
C'est ça.
Il s'en va. Vous voulez continuer à adorer vos petits dieux, etc. Thoth, Amon et les autres, vous pouvez le faire. Et en fait, alors que lui était à Tel el Amarna, l'Égypte continue à vivre sa vie avec ses petits dieux. Ça, c'est aussi un exemple. Mais c'est effectivement l'idée de la primauté d'un dieu sur les autres est très proche du monothéisme. Et vous avez cité tout à l'heure la prière à Aton. On ne peut pas ne pas s'empêcher de trouver des réminiscences avec le Notre Père.
Oui, oui, bien sûr, tout simplement. Oui.
Il y a effectivement quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans.
Alors, on dit que Moïse aurait pu être en quelque sorte le point de jonction avec les religions du livre.
Hein. Oui, c'est une théorie. On a imaginé que, il est évident que la fin d'Akhenaton est sûrement sanglante. Il faut savoir qu'à un moment donné, ce ne sont pas seulement les prêtres d'Amon qui étaient fous de rage. Et s'ils étaient fous de rage, c'est qu'on les avait touchés dans le plus sacré, c'est-à-dire l'argent.
Et bien sûr. Hein.
Puisque toutes les offrandes...
Ils percevaient les impôts, hein, faut pas oublier.
C'était énorme. La fortune des prêtres d'Amon était énorme. À partir du moment où il leur dit non, maintenant c'est Aton, là il y a eu une grosse colère. Et les généraux ont commencé à être fous de rage, entre autres Hohenheim-Reb,
qui a pris
sa succession.
Si vous voulez, d'ailleurs, on va parler dans un instant de, bien sûr, d'Hohenheim-Reb, on va parler de Semenkaré, on va parler bien sûr de Néfertiti, tous ces personnages, la reine Ti, tous ces personnages du règne d'Akhenaton. Mais réglons peut-être, si vous voulez, cette dimension religieuse, hein, voilà, c'est ça.
Alors, vous aviez parlé de Moïse tout à l'heure. Oui. Effectivement, on pense qu'après la chute de Tel Amarna, quand cette ville s'est trouvée menacée, qu'on a senti que c'était la fin, il semblerait que quelques prêtres des fidèles d'Aton se soient enfouis, et parmi lesquels il y aurait eu un certain Moïse qui veut dire simplement « fils d'eux mm-hmm. ». Ah, Moïse, etc., toute Moïse.
Oui, bon. Voilà.
Et ils auraient fui où ? Vers le Sinaï. Et là, ils auraient emmené avec eux les traditions égyptiennes, c'est-à-dire entre autres la circoncision, qui date de 3500 ans avant Jésus-Christ, et évidemment l'histoire du Dieu qu'on ne révèle pas, qui n'a pas de nom, et qu'on ne figure pas. Et c'est très proche du judaïsme, effectivement. Mais ça reste une théorie. Je ne voudrais pas que tout à coup les auditeurs se mettent à nous assaillir.
Oui, bien sûr. Il faut toujours faire... Mais vous savez, nous avons des auditeurs très ouverts d'esprit. C'est ce qui caractérise cette émission. Nous parlons d'événements qui se sont déroulés il y a 34 ou presque 35 siècles. Donc, évidemment, tout ça est toujours sujet à caution. On a très peu d'éléments sur les débuts et sur la fin du règne d'Akhenaton. C'est faut le dire. Sur les débuts, on pense qu'il a co-régné avec son père, Amenhotep III, pendant 12 ans, dit-on. Hein, c'est ça. Alors, on ne sait pas, en fait. Il aurait pu y avoir une co-régence, déjà, avec son propre père.
C'est une possibilité, mais on a alors, vraiment, c'est un pharaon qui ne pose que des questionnements.
Oui,
on n'a pas de réponse. On est dans le flou. On sait qu'il n'a pas régné longtemps, 12 ans.
Règne en tout 18 ans, et la révolution dure 12-13 ans.
Absolument.
Hein, c'est ça, voilà.
Donc, ça n'a pas été énorme. Cela étant... Permettez-moi cette parenthèse, vous avez évoqué tout à l'heure Néfertiti, le buste, en disant que, enfin, l'égyptologue en question disait que c'était un double ou un faux.
Henri Stirna, oui.
Oui, parce qu'elle était borgne, la pauvre Néfertiti. Mais en fait, il y a quand même deux explications. La première, c'est que le sculpteur Djéhoutimès n'a pas eu le temps de le finir parce que c'était la chute de la ville. Mm-hmm. C'est une théorie. Et la seconde, plus romantique, c'est qu'il était fou amoureux Néfertiti et qu'elle ne répondait pas à ses avances, donc il a laissé borgne pour se venger. Donc il y a des explications.
Vous croyez à l'authenticité du buste hein.
Moi, je crois profondément à l'authenticité du buste.
Mais je tiens à dire, pour être honnête, que certains historiens de l'art, et pas des moindres, croient profondément à son caractère
faux.
Bon, c'est ça, on ne va pas entrer dans ce débat. Alors, je disais que sur le début du règne, on ne sait pas grand-chose. Et alors là où est le plus grand mystère peut-être, c'est pour ce qui concerne la fin du règne. Comment meurt-il à 30 ans quand même, ce jeune pharaon? De quoi meurt-il? D'une maladie? Est-ce qu'il est assassiné? Qu'est-ce qu'on peut en savoir?
Vous avez évoqué tout à l'heure l'impossibilité d'une maladie.
Non, j'ai pas dit l'impossibilité. J'ai dit que je n'y croyais pas personnellement.
Ouais, je pense qu'il souffrait, je crois que son physique androgyne...
On sait qu'il y a une origine authentique dans ce physique.
Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Baraké, Simon et Baraké, qui est très proche de la maladie qu'il avait. Les autres maladies sont totalement éliminées, ça aurait fait de lui un impuissant. Or, il a eu 6 enfants. Mm-hmm. C'est très probable qu'il fût frappé d'un syndrome hormonal. Et sa représentation, et là on se rejoint complètement, il a voulu qu'on le représente effectivement tel qu'il était.
Homme et femme.
Et il ne voulait pas qu'on le représente comme Ramsès II sur son char en train de vaincre les ennemis. Il était pour l'ouverture totale, la transparence, comme on dit de nos jours. Et la preuve étant, c'est que c'est le premier pharaon qui laisse ses temples sans toit. Il y a une ouverture vers le ciel. Là aussi, c'est un élément important. Et le fait de se laisser représenter avec sa femme, avec ses enfants, dans des scènes de la vie quotidienne. C'est aussi un besoin de transparence. Et on avait évoqué l'œuf tout à l'heure, les crânes en forme d'œuf. Il était impossible qu'il fût hydrocéphale, il serait mort tout de suite. Il y a une autre théorie assez intéressante et qui rejoint un peu la Genèse biblique. C'est qu'au début du monde, au début de la création, comme dans la Bible, c'était de l'eau, un bouillonnement, rien d'autre. On appelait ça le noun. Et de là...
Une sorte de chaos, le chaos originel.
Chaos. Et de là, les dieux sont apparus, ont posé sur une colline un œuf, et cet œuf a éclos, et là est sorti le soleil. Donc on a vraiment le symbole du début du monde, l'œuf qui donc peut-être, là il a demandé aux artisans, de le représenter, de représenter sa femme, Néfertiti et ses enfants, avec ce crâne en forme d'œuf qui symbolise le début du monde.
Et c'est un symbolisme qui s'inscrit dans une forme très vivante. Je n'oublierai jamais l'impression que me faisait le grand buste de Toutankhamon, on dirait un mot tout à l'heure aussi de Toutankhamon, hein, mais d'Akhenaton, pardon, lorsqu'on montait, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui pour tout vous dire, mais au musée du Louvre, dans la grande volée d'escaliers qui mène au département d'Égypte, vous avez ce gigantesque buste avec Akhenaton qui vous regarde montant les marches.
Il est
d'une présence, il est d'une force à laquelle on peut difficilement comparer quoi que ce soit.
Absolument.
C'est formidable. Alors, nous voyons un peu à quoi ressemble ce pharaon, son époque, la révolution qu'il a mise en œuvre. Venons peut-être, si vous le voulez bien, à ceux qui l'ont entouré, à commencer par la sublime Néfertiti.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Le pharaon Akhenaton est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'écrivain Gilbert Sinoué, auteur de Akhenaton, le dieu maudit chez Gallimard, auteur également du livre Les 5 quartiers de la lune, paru en février dernier chez Flammarion.
Et vous me disiez à l'instant, Gilbert Sinoué, qu'il faut insister sur l'emplacement même de cette ville, le site actuel de Tell el-Amarna, donc de cette ville d'Akhenaton. La cité d'Aton, construite sur les indications, sur les ordres, disons-le, du pharaon Akhenaton.
Absolument. Le lieu n'est pas choisi par hasard. Il cherchait un lieu pour bâtir sa nouvelle capitale, en tout cas sa ville. Et donc, il avait entrepris de remonter le désert jusqu'en Haute-Égypte. Et là, il avait fait halte, justement, dans ce fameux lieu de Tell el-Amarna. Et qu'est-ce qu'il a aperçu? Il a aperçu, c'était l'aube, début, et il a aperçu le soleil qui se levait entre deux collines. Et quand on regarde la forme que cela prend, les deux collines et le soleil au milieu, c'est le symbole de la lettre Akhet. Akhet qui est en fait le soleil, en quelque sorte. Et il s'est dit, c'est ici que je vais bâtir ma ville, Akhetaton. Et c'est comme ça qu'il a choisi le lieu.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que la ville en question, elle avait plus ou moins la forme d'un amphithéâtre, ouais, tourné vers l'est, vers l'Orient, ce qui n'est pas fréquent pour une ville. La plupart des villes sont, enfin, dans la mesure où le terrain s'y prête, sont plutôt tournées vers le couchant. Là, elle est tournée vers l'est pour pouvoir adorer. Il semblerait qu'on se levait très tôt à Akhetaton pour adorer le lever du soleil. Ça devait être assez
étonnant. Absolument. Et chose encore plus extraordinaire, il fixe des limites à sa ville. C'est qu'elle ne devra pas dépasser telle distance, telle superficie. C'est assez incroyable, parce qu'on a envie qu'une ville se développe à l'infini.
Dans l'expansion, à l'infini, oui. Bien, il y a cette sagesse ultime. Non, le bonhomme est quand même, si j'ose ainsi m'exprimer, le souverain est quand même tout à fait fascinant. Oui. Alors parlons des gens autour de lui. D'abord, de cette mère déterminante, peut-être un peu abusive, ce qui pourrait expliquer certaines choses, la reine Ti, hein, qui l'a mise au monde.
On disait que c'était une vipère,
oui,
une femme absolument autoritaire et qui a, en quelque sorte, j'oserais pas le dire, mais qui a été un peu castratrice à l'écart de son fils. Ça l'a pas empêché d'avoir 6 enfants. Mais c'est une femme très dure et très puissante et qui a certainement dû beaucoup jouer d'influence dans la vie d'Akhenaton.
Akhenaton avait, comme tous les pharaons, des concubines, des favorites, on va dire, mais qui avait quand même un statut officiel, plus officiel que nos favorites modernes. La plus célèbre de toutes, c'est Kiya.
Kiya, absolument. Oui. Dont on a retrouvé la tombe, justement, dans la fameuse tombe KV-55, qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle était enterrée là.
Vous dites la fameuse tombe parce que c'est là qu'on retrouve également le corps, censé être en tout cas le corps d'Akhenaton, alors qu'il avait été enterré initialement à
Tell el-Amarna.
Bien sûr.
Absolument. Et oui, mais il y a surtout Néfertiti, évidemment.
Alors, juste un mot de Kiya, elle est la mère, semble-t-il, de Toutankhamon.
On n'est pas sûr non plus.
On n'est pas sûr.
On pense que la mère de Toutankhamon n'est autre qu'une des filles de Toutankhamon.
Oui, parce qu'il a épousé plusieurs de ses filles, deux.
Il a épousé deux de ses filles, et ce serait l'une des deux qui serait la mère de Toutankhamon, et pas un Néfertiti, et en ce cas pas Kiya.
Un homme-femme qui épouse deux de ses filles, vous avouerez qu'évidemment ça ne peut que nous faire froncer les sourcils à notre époque, tout ça est un peu étrange. Alors Néfertiti, qui est-elle par rapport à lui? D'abord, on ne sait rien de ses origines à elle, c'est quand même étonnant.
On ne sait rien, on la surnomme la Belle est venue,
oui, C'est son nom. Hein.
Oui.
Voici venir la belle, quoi.
C'est ça, la belle est venue. On pense qu'elle était d'origine mitannienne. On ne sait pas vraiment qui est cette femme. À un moment donné, on a même pensé qu'elle avait toujours fait partie de son entourage. On ne sait rien d'elle. On n'a que des théories à son propos. Évidemment, si on en juge par les fresques, elle paraissait être très belle.
Oui, d'une beauté
assez étonnante.
Oui.
Quel rôle elle a joué? Alors, effectivement, on dit que c'est elle qui aurait amené Akhenaton au monothéisme, ce que personnellement je ne crois pas. L'idée avait jamais en lui. Et puis, il a créé Tel Amarna et il ne l'a connue qu'après avoir créé Tel Amarna. Donc, l'idée ne vient pas d'elle. Qu'elle se soit opposée à lui en lui disant, écoute,
C'est quand même intéressant de voir que cette 18e dynastie aura été, si l'on peut dire, la dynastie des femmes, avec la reine Ti dont nous parlions, avec bien entendu la reine Hatshepsut, dont il faudrait dire, si on voulait être tout à fait précis, le roi Hatshepsut, hein, puisqu'elle s'était fait sacré roi. C'est quand même étonnant, la primauté de toutes ces femmes sous la 18e dynastie, c'est assez particulier.
C'est étonnant, mais n'oubliez pas que dans l'Égypte antique, la femme était traitée à l'égal de l'homme. Il n'y avait pas de sentiment ou d'attitude de soumission de l'homme vis-à-vis de la femme. La femme était traitée exactement comme l'homme.
Alors, parlons aussi de celui qui va être le compagnon de toute la fin du règne d'Akhenaton, ce jeune Smenkhare. Qui était-il, lui?
On ne sait pas non plus.
Bon, ben voilà, on n'est
pas
plus avancé.
Des mauvaises langues ont dit que c'était lui, la belle, qui était venue. On ne sait pas vraiment d'où il arrivait. C'était probablement un messager, dit-on, qui était porteur de lettres pour Akhenaton. Akhenaton serait tombé éperdument amoureux de ce garçon et aurait même co-régné à ses côtés pendant jusqu'à la fin de son règne.
Oui, puisque...
Et ça aurait été d'ailleurs l'une des raisons de la grosse colère de Nefertiti. Parce qu'il faut préciser qu'il avait surnommé...
On peut la comprendre en même temps. Oui.
Il avait surnommé Smenkhare, en lui donnant, je n'ai plus les noms en tête, les mêmes noms que Nefertiti. Il l'avait surnommé des mêmes noms que Nefertiti. Sorte de... Voilà. Il l'avait adoubé, en quelque sorte, reine d'Égypte.
Oui. Et d'ailleurs, au moment de l'inhumation...
Il est enterré en posture féminine.
Oui.
Avec le bras gauche replié sous la poitrine.
Tout ça est quand même assez sidérant.
Assez fou.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas justement aussi se poser cette question-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit grain chez Akhenaton? Est-ce qu'il n'aurait pas été un peu dérangé de changer de religion, de changer de capitale, de changer d'organisation sociale, de prendre un amant à côté de son épouse et d'en faire une sorte de reine d'Égypte et de se considérer lui-même comme un homme-femme? Vous voyez que ça fait beaucoup pour un seul homme, non?
Oui, je ne vais pas prendre toute la liste. Mais je pense qu'en tout cas, dérangé, je ne crois pas. Je pense, alors à ce moment-là, pardonnez-moi de faire des rapprochements, mais Jésus, Mahomet, Moïse sont des dérangés aussi.
Donc pour vous, c'est au contraire une sorte de très grand visionnaire.
Visionnaire. Mmh. Et je me dis toujours, la grande question qu'on pourrait se poser, et s'il avait réussi à imposer le monothéisme? Je veux dire, si on se projette et qu'on imagine que le monothéisme a pu exister au XVe siècle avant Jésus-Christ, toute la suite est à reconstituer.
Oui, c'est vrai que ça donne un peu le vertige.
Là, ce serait une révolution.
Oui, vraiment. Ça l'a été, mais c'est une révolution qui a avorté.
Oui.
On peut imaginer que cette révolution ait été un succès, ait fait florès. Ça aurait été très différent, bien entendu. Orem Ebb a été le grand homme militaire du règne. Il a joué un rôle dans la fin du règne, justement.
Fondamental, parce que les ennemis de l'Égypte ont eu vent de la faiblesse, appelons ça faiblesse, en tout cas j'appellerais ça de la non-violence d'Akhenaton, qui ne voulait verser le sang à aucun prix. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il a quitté Thèbes. Il ne voulait pas d'affrontement, il ne voulait pas de bain de sang, et les ennemis de l'Égypte en ont profité pour commencer à grignoter les frontières du pays. Et évidemment, les militaires ont vu ça d'un très mauvais œil et ont lui demandé de réagir. On lui a demandé de lever une armée. Et c'est peut-être là que Nefertiti a joué un rôle. Elle a dû lui dire, écoute, on ne va pas laisser l'Égypte partir à volo. Et il ne réagissait pas. Et il est probable qu'il y ait eu un coup d'État militaire secondé par les prêtres d'Amon qui n'attendaient que cela. Je crois que c'est comme ça que la fin a dû se produire.
C'est intéressant de voir les précautions oratoires auxquelles vous êtes bien obligé de recourir, tant reste en suspens un certain nombre des grandes questions de ce règne. Ce qui est certain, c'est que après un court interrègne, c'est Toutankhamon qui va succéder.
Jeune,
il est tout jeune, il a quoi? Il a 9 ans. Alors ce Toutankhamon, c'est tout l'inverse.
Mais il commence par s'appeler Toutankhaton.
Oui, bien évidemment.
Puisque c'est le fils de Toutankhamon. Et là, sous l'influence, encore une fois, de ceux qui ont pris la relève, c'est-à-dire...
Aton
redevient Amon, et on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va fracturer tout ce qui a trait à Aton. Et dans la tombe où on a retrouvé Akhenaton, effectivement, on voit les cartouches complètement défigurées, fracassées. Il ne faut plus que figure le dieu Aton nulle part. Et ça a été la fin de cette tentative de monothéisme. Et donc, Toutankhaton va s'appeler Toutankhamon.
Alors ce Toutankhamon, il n'y aurait quasiment rien à en dire, soyons honnêtes.
Rien.
Sinon que, évidemment, il va devenir le pharaon le plus célèbre de l'histoire d'Égypte, après Ramsès II peut-être, uniquement parce qu'on a découvert, en 1922, sa tombe inviolée. Quand je dis « on », c'est Howard Carter, bien entendu, avec Lord Carnarvon, qui vont donc mettre au jour cette extraordinaire tombe, avec un mobilier funéraire complet.
Pratiquement intact.
Tout ça quasiment intact, c'est une découverte majeure, qui va d'ailleurs donner un nouvel essor à une égyptologie qui déjà, depuis 150 ans, était très, très forte. Là, ça devient une véritable manie dans le monde entier grâce à Toutankhamon. Mais le pauvre, il aurait été, si je puis dire, bien étonné de cette gloire posthume parce qu'il n'a pas grand-chose à dire de son règne, évidemment.
Absolument rien. Si ce n'est qu'il a, à cause ou grâce à lui, il y a eu la fameuse malédiction des pharaons, puisque tous ceux qui ont découvert la fameuse tombe sont morts de manière, entre guillemets, mystérieuse.
Ce qui est assez fascinant, c'est que finalement, le cours du temps dans cette Égypte immuable a été renoué. Et que tout est rentré, si je puis dire, dans l'ordre après cette parenthèse tellement fascinante et qui, aujourd'hui encore, n'en finit pas de nous étonner. Vous nous ramenez avec votre dernier ouvrage, je voudrais juste en dire un mot, si vous le voulez bien, Gilbert Sinoué, dans les 5 quartiers de la Lune qui paraît chez Flammarion, vous nous ramenez dans une époque infiniment plus récente. On est quasiment dans l'actualité, en fait.
Oui, là, c'est tout à fait autre chose. C'est un bond dans le temps, un très grand bond. C'est 100 ans d'histoire du Moyen-Orient sur 3 volumes. C'est un travail colossal, près de 1000 pages, qui raconte aussi...
Une immense fresque, 7 familles qui s'imbriquent, si je puis dire.
Voilà, sur un siècle d'histoire, pour essayer de comprendre ce Moyen-Orient si compliqué.
Oui, vers l'Orient compliqué,
très compliqué.
Je volais avec des idées simples, disait le général de Gaulle. Les vôtres ne sont pas forcément simples, mais elles sont ensorcelantes. Vous avez le don de nous parler de l'Orient avec la substance même de cet Orient, mais avec des mots et avec des concepts qui sont ceux de l'Occident. C'est ce qui fait, je pense, votre immense talent, Gilbert Sinoué. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet Akhenaton, le dieu maudit, c'est ainsi que vous l'avez surnommé dans votre biographie, qui est donc disponible en folio numéro 4295. Voilà qui est précis, vous le verrez.
Vous restez à
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Marthe qui vous demande, Franck Ferrand, via la page Facebook de l'émission, de revenir sur les origines de la machine à écrire.
Alors, le premier connu pour avoir déposé un brevet de machine à écrire, c'était en 1714 quand même. C'était un certain Henry Mill. Aujourd'hui encore, il est impossible de savoir si son invention a véritablement été réalisée. On ne sait même pas d'ailleurs à quoi ça ressemblait exactement. Bref, on va passer. En 1780, c'est un Français, donc quelques années seulement avant la Révolution, un Français qui s'appelle Pingeron, qui élabore une machine à destination des aveugles. C'était ça au départ son principe. Il met au point un système de touches reliées à une barre de frappe. L'invention, elle sera brevetée nettement plus tard, en 1833. Mais la première machine à écrire qui ait été réellement commercialisée, c'est la Hanson Writing Bowl. Hansen, du nom de son inventeur, hein, le révérend danois Rasmus Malling Hansen, il la met au point en 1865, c'est nettement plus proche de nous évidemment, il la commercialise en 1870. Alors il se trouve que ce monsieur est le directeur de l'Institut Royal pour les Sourds-Muets de Copenhague, et là encore, son intention au départ était de faciliter la communication entre ses patients et leur entourage. Tous ceux qui ne connaissaient pas le langage des signes, notamment, étaient bien contents que le patient puisse leur écrire comme ça. Bon. La machine est assez étonnante, elle ne ressemble d'ailleurs pas du tout au modèle que nous avons pu connaître. Il s'agit d'une sorte de dôme surmonté de touches correspondant chacune à une lettre ou à un chiffre. La feuille de papier était située sous le dôme, ce qui rendait la frappe, vous l'imaginez, passablement compliquée. Et alors, en cas de faute de frappe, je vous laisse imaginer les difficultés. Bon, finalement, celui qu'on retiendra comme étant le véritable père de la machine à écrire moderne, parce que c'était ça la question finalement que nous posait Marthe, c'est un Américain. Il s'appelle Christopher Ladam Scholes. Il dépose son brevet en 1870, donc comme le Danois là. Son brevet sera racheté en 1973 par un fabricant d'armes qui s'appelle Remington. Et oui, c'est le début de la célèbre machine Remington. Alors celle-là, on la connaît, bien entendu. C'est la fin de la guerre de sécession, en 1865. Il faut trouver un moyen de se renouveler. La marque réalise déjà des machines à coudre. Elle se dit que des machines à écrire, pourquoi pas. Donc la Remington modèle 1 débarque en France en 1883. On peut dire qu'elle ouvre une ère nouvelle. Celle peut-être tout simplement de la multiplication de la paperasserie. Pardon de finir sur cette note un peu triste. Et voici Marion Ruggieri. Bonjour Marion.